Créée le 19 juin 2019 à la suite du drame survenu le 7 juin au Sable-d'Olonne qui a entraîné le décès de trois sauveteurs de la SNSM, la mission commune d'information du Sénat sur le sauvetage en mer et la sécurité maritime avait pour objet d'examiner le modèle économique et social ainsi que les besoins en termes de logistique et d'investissement. Le rapport a été adopté le 22 octobre. Didier Mandelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur de Vendée et rapporteur de cette mission sénatoriale.
C'est bien ça.
Sauvetage en mer, replacer les bénévoles au cœur de la décision. Par ce titre, on peut comprendre que ces sauveteurs sont des petites mains et que toutes les décisions stratégiques sont prises à Paris. Est-ce votre ressenti?
Ah, c'est plus qu'un ressenti, c'est un constat que nous avons fait au travers des différentes visites effectuées sur tous les littoraux français, sur tous les territoires. Et le fruit de notre rencontre, de nos rencontres avec énormément de représentants de stations, de bénévoles, de la Manche à l'Atlantique en passant par la Méditerranée et même en Outre-mer.
Et ces bénévoles de la SNSM, quelle est leur plus grande crainte?
Écoutez, ce que nous avons entendu, c'est un qu'ils souhaitaient, les uns et les autres, conserver ce qui fait leur particularité, leur richesse, c'est-à-dire... Le bénévolat et l'esprit d'entraide entre gens de mer, ça c'était leur première attente, ne pas toucher à leur statut et à leurs conditions de bénévole engagés au service des autres. Ensuite, on a au travers de ces différentes visites pu mesurer à la fois leur niveau d'engagement et nous avons considéré donc que nous avions trois pistes qui se sont dégagées, trois pistes à travailler. L'une qui concernait la reconnaissance du rôle de bénévole et au travers de leur statut et de la formation.
C'est mieux que reconnaître le bénévolat et son engagement humaniste.
Oui, on a un certain nombre de mesures dans ce cadre-là, parce qu'il faut préserver cette richesse de l'engagement des bénévoles. Et donc nous avons intégré un certain nombre de propositions qui permettraient de... si elles sont mises en œuvre à la fois par le gouvernement et par la SNSM elle-même, eh bien de mieux reconnaître et de mieux prendre en compte la dimension bénévole des sauveteurs, et notamment des sauveteurs embarqués.
Garantir sur le long terme le financement aussi des investissements, c'est très important pour la SNSM.
Oui, c'est un serpent de mer, c'est le cas de le dire, depuis près de 30 ans. Après un premier drame de la Beurvrac qui avait causé... le décès de sauveteur. 30 ans plus tard, malheureusement, l'histoire se répète avec les disparus des Sables-d'Olonne, nos trois sauveteurs. Entre ces deux périodes et ces deux drames, en réalité, rien n'a été fait pour pérenniser les ressources de la SNSM et lui permettre de faire face au remplacement des 140 navires qui sont nécessaires aujourd'hui.
Comment vous l'expliquez alors, cette problématique?
Parce que c'est une structure qui a une dimension associative, reconnue d'utilité publique, mais qui ne fonctionne pas comme une association sur laquelle se repose l'État qui nous dit en audition par la voix de son directeur des affaires maritimes, la SNSM n'assure pas une mission de service public, ce que d'ailleurs n'approuve pas la SNSM, qui nous dit qu'elle assure, sous tutelle du gouvernement et du ministère, une mission de service public. Donc c'est ce hiatus un peu entre le fait que l'État se satisfasse de cette situation où des bénévoles s'engagent pour faire du sauvetage en mer. Je rappelle que la SNSM assure près de 52% des sauvetages en mer, le reste étant assuré par les services de l'État en direct, dans le cadre de l'action de l'État en mer, au travers de la Marine nationale, la protection civile, les douanes, etc. Une espèce de no man's land là où la SNSM intervient... mais assure au travers des sollicitations du CROSS une mission de service public de sauvetage en mer et ça n'est pas le cas aux yeux de l'État. Donc voilà, nous ce qu'on souhaite c'est simplement que chacun prenne ses responsabilités et reconnaisse les prérogatives des autres.
Le financement aussi, une partie doit être prise par l'État, c'est ce qui est marqué dans ce rapport.
Oui, clairement, il faut que l'État assume. On ne demande pas par exemple aux pilotes de Canadair de financer leur avion et d'être bénévoles. On ne demande pas aux sapeurs-pompiers volontaires de financer leur camion incendie. Donc, de la même façon, on ne peut pas demander aux sauveteurs de financer ne serait-ce que 25%, ce qui est le cas aujourd'hui, du renouvellement de la flotte pour la station qui les concerne. Donc, il appartient à l'État d'assumer pleinement, avec des moyens qui sont à disposition et des fonds qui existent, qui sont le fruit de taxes diverses.
Alors, pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre ?
Parce que je pense que politiquement, personne n'a eu ni le réflexe, ni le courage de le faire, et que les arbitrages annuels du ministère de l'économie et des finances, de Bercy, n'ont pas été favorables au sauvetage en mer, de la SNSM, je précise. Mais les CROSS subissent également le même désengagement, puisque il y a un certain nombre de moyens qui sont manquants dans les CROSS, qui assurent, comme son nom l'indique, la surveillance et le sauvetage, donc et déploient les moyens. Donc en réalité, tout le monde se satisfaisait de cette situation. Les bénévoles s'engageaient, ne revendiquaient rien, faisaient leur mission avec dévouement et passion. Et puis tout allait bien jusqu'au drame. Voilà. Donc et dans notre pays, malheureusement, il faut qu'il y ait des drames pour que l'État prenne ses responsabilités. Et l'État, c'est nous tous, hein, d'ailleurs. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'État, de l'appareil, prenne ses responsabilités et constate et tente de mettre en œuvre. Donc nous, c'est le sens de ce rapport. Au travers de ces 30 propositions que nous faisons, c'est dire à chacun, ben voilà nous le constat que nous faisons, voilà les propositions que nous faisons, et nous considérons qu'en les mettant en œuvre, on aura grandement amélioré la situation à la fois des bénévoles et du sauvetage dans sa globalité.
Il y a aussi une partie des investissements pour le gros matériel hors canot. C'est aussi important en termes d'argent pour les stations SNSM devant des autres départements.
Oui, pour toutes les stations. Ce qui pèse, c'est effectivement les gros investissements, le renouvellement de la flotte, et notamment les canaux tout temps, hein, qui coûtent relativement cher, encore plus demain. Eh bien, nous disons qu'il faut remplacer, c'est la SNSM qui le dit d'ailleurs, nous l'avons constaté, 140 canaux, et qu'à ce jour, pour les 5 prochaines années, 35 seulement sont aujourd'hui assurés d'être financés. Donc c'est 25 millions d'euros, il manque simplement, entre guillemets, 75 millions d'euros dans les 10 à 12 ans qui viennent pour renouveler la totalité de la flotte qu'il nécessite. Donc on est très loin du compte, donc s'il n'y a pas un engagement fort à la fois de l'État, mais également un fonctionnement un peu différent dans les stations, eh bien ce sera, dans la relation entre les stations et le siège, ce sera compliqué sans doute d'y parvenir. Donc c'est une question, j'allais dire, de nécessité absolue.
Une chose importante, c'est également créer une station ou une association départementale pour chaque station se regroupe. C'est aussi important pour vous.
Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un constat, les stations locales n'ont pas d'existence juridique. Le président n'a de président que le nom, il est désigné par Paris, le trésorier aussi, le délégué départemental est désigné par Paris. Donc c'est pas ce qu'on appelle à proprement parler un fonctionnement démocratique d'une association, surtout quand elle est reconnue d'utilité publique où la part de la démocratie interne doit être importante. Eh bien nous, ce que nous disons, c'est à l'instar de ce qui se fait au travers de la protection civile, qui a des missions quasiment identiques à terre, en termes de formation, d'accompagnement, de sauvetage, enfin de protection, d'assistance, eh bien nous demandons à la SNSM de créer des associations départementales dont les présidents seraient élus démocratiquement par les stations, et qu'ensuite ces stations et ce département, cette structure départementale soient largement représentées à Paris, à la fois dans le conseil d'administration, à l'Assemblée générale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et puissent contribuer à faire élire un président de la SNSM, qui pourrait être issu de ces rangs d'ailleurs, et non pas coopté ou adoubé, comme c'est le cas depuis des décennies à la SNSM, par le gouvernement, avec des présidents qui ont d'énormes qualités, bien sûr, mais qui sont issus soit de grands corps d'État, ce qui est le cas du président actuel, soit de la Marine nationale. Moi, je peux imaginer, rêver qu'un jour, le président de la SNSM, je leur ai posé la question d'ailleurs en audition, soit un patron de station ou un bénévole embarqué, quel que soit l'endroit de France où il réside et où il intervient. Donc ça, c'est un fonctionnement associatif démocratique.
Car aujourd'hui, les sauveteurs bénévoles n'ont pas le droit de vote, ne votent pas.
Non, ils ne sont pas adhérents d'ailleurs en tant que tels, ils ne sont pas considérés comme adhérents, il n'y a pas d'adhésion. Donc il y a 8000 bénévoles qui sont uniquement des bénévoles, mais qui n'ont pas voté au chapitre au niveau de l'association unique nationale. Donc nous disons simplement, redonnons un peu de souffle, à une époque où on parle beaucoup de démocratie participative, d'implication des concitoyens dans les instances, dans les décisions, à une époque où on fait des tirages au sort pour traiter d'un certain nombre de sujets, là on a 8000 bénévoles qui sont engagés au service d'une cause, eh bien, associons-les tout simplement. Moi, je viens aussi du monde associatif, j'ai été président d'association. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une association qui fonctionne comme ça, où tout est décidé du siège sans aucune relation avec, enfin, ou peu, avec les structures locales. On ne désigne pas des membres. Enfin, je veux dire, ça ne peut pas être descendant. Il faut des processus classiques d'élection de représentants, différents niveaux ou strates, et qui ensuite aboutissent au national pour constituer la structure siège. Donc, il faut redonner un peu de démocratie interne à l'association.
Ces structures locales, par contre, font tout de A à Z, que ce soit traitement de l'argent, j'en passe, et des meilleurs.
Oui, on leur demande d'assurer à la fois des tâches, bien sûr, administratives. Y compris de recouvrement des assistances et des remorquages, de facturation à la CPM, par exemple, pour les transports sanitaires. On a vu ça notamment en Bretagne, sur les îles, mais c'est vrai aussi en Vendée. Un certain nombre de tâches de ce type-là qui ne sont pas à notre sens du rôle des bénévoles, qui n'ont pas de soutien administratif local. Donc il faut que tout ça puisse être centralisé, de la même façon que c'est très inégal d'une station à une autre en termes d'implication des collectivités locales également, par la mise à disposition de locaux, etc. Enfin voilà, on pourrait extrapoler, mais il n'y a pas d'unicité de traitement d'une station à une autre. C'est très inégal et on demande aux gens, aux bénévoles, de faire un grand nombre de tâches, y compris ce que certains appellent faire la manche ou la quête, c'est-à-dire aller faire des opérations, vendre des calendriers. Ils ne rechignent pas à cette tâche-là, mais ils considèrent que ça ne va pas occuper l'essentiel de leur temps. Mais s'ils le font, c'est parce qu'ils ont cette obligation de financer 25% du coût de leur bateau, s'ils souhaitent le renouveler. Voilà, on est dans une logique qui n'est pas très, très vertueuse. C'est-à-dire que certains organisent 10, 12 manifestations par an, organisent énormément de choses pour collecter des fonds. Alors qu'ils souhaiteraient dégager de ce temps-là pour pouvoir plutôt se consacrer à des formations, aller en formation une à deux semaines par an éventuellement pour certains. Je pense aux patrons de bateaux ou aux seconds, ce qui nécessite du temps de formation au pôle national de Saint-Nazaire, par exemple. Et bien, plutôt que consacrer du temps à organiser des manifestations et collecter des fonds, et tous le considèrent, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent, considèrent que c'est pas leur mission de base. Eh bien, dégageons-leur du temps, soulageons-les à la fois des financements d'un certain nombre de tâches administratives, et ils pourront se consacrer à leur propre formation et aux sorties, aux exercices.
Autre aspect pointé dans ce rapport, les bénévoles sont de moins en moins issus du milieu de la mer. Ça aussi, c'est un handicap pour la SNSM.
Oui, c'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité. Je pense par exemple au monde agricole, où ceux qui aujourd'hui sont en activité ne sont pas issus du milieu, parce que le milieu, des professionnels se tarit aussi. Il y a de moins en moins de pêcheurs, moins en moins de gens de mer. Et donc, de fait, ceux qui s'impliquent dans la SNSM aujourd'hui ne sont pas, comme c'était le cas à une époque, issus à 100% du monde de la mer. Et donc, ça veut dire que ils n'ont pas, pour certains, cette expérience-là du terrain, des sorties, des conditions, du relief. Et donc, cela nécessite par conséquent beaucoup plus de formation et beaucoup plus d'exercice. Donc, c'est beaucoup plus lourd à gérer et à appréhender pour les stations. D'où l'importance de renforcer le pôle national de formation de Saint-Nazaire, qui dispose, entre autres, d'un simulateur un simulateur de bateau. Enfin, voilà. Il y a un grand nombre d'actions à mener qui résultent de cette situation, mais qui est un constat un peu partout en France.
Vous souhaiteriez également avoir une taxe sur chaque assurance pour, par exemple, les bateaux plaisanciers, pour renflouer un petit peu les caisses de la SNSM. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça?
Oui, enfin, ce n'est pas tout à fait ça.
Expliquez-nous alors.
Ce qu'on souhaite, ce n'est pas forcément une taxe supplémentaire, mais c'est que quand un plaisancier prend une assurance, personnel, c'est le cas par exemple d'une responsabilité civile liée par exemple à un prêt habitat ou autre, et bien qu'il puisse cocher la case assistance remorquage si tant est qu'il fasse du bateau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De la même façon qu'on demande si vous faites du vélo ou autre chose, pour être pris en charge, il faudrait pouvoir l'indiquer. Sachant que les plaisanciers qui sont assurés aujourd'hui assurent déjà, en termes de financement, et ça va directement dans les caisses de l'État, ça représente 147 millions d'euros au travers de leur contrat d'assurance, parce qu'il y a une taxe de 19% sur tous les contrats d'assurance, y compris ceci, qui s'en va directement dans les caisses de l'État. Donc, c'est faux de dire que les plaisantiers ne participent pas, enfin ne financent rien, puisqu'ils ont déjà cette part-là sur leur assurance. Et de plus, ils financent au travers du DFN 55 millions d'euros qui sont pour l'essentiel consacrés au Conservatoire du Littoral. Donc, c'est plus de 200 millions d'euros aujourd'hui qui sont financés, enfin, qui sont payés par les plaisanciers et qui vont dans les caisses de l'État pour être affectés à beaucoup de sujets qui ne concernent pas directement la mer et encore moins le sauvetage.
Quand ces propositions seront-elles applicables ou appliquées ?
Elles sont applicables déjà aujourd'hui pour la plupart. Elles ne nécessitent qu'une prise en compte à la fois de la SNSM et de l'État pour être mise en œuvre. C'est relativement simple. Il suffit que l'État, et d'ailleurs, c'était déjà dans des rapports, hein, 2015 et 2016, où on a repris un certain nombre de points des propositions qui avaient été faites par une députée du Finistère, Mme Guittet, Chantal, qui avait émis un certain nombre de propositions en 2016. On avait un rapport du ministère, du commissariat général au développement durable et aux affaires maritimes, direction des affaires maritimes, qui avait commis un rapport en 2015, donc à 2016, pour ces deux, dans lesquels on retrouvait un certain nombre de propositions, mais qui n'ont pas été mises en œuvre, au-delà de la question du financement, parce qu'on résume souvent les difficultés ou le fonctionnement de la SNSM à son unique besoin de financement. Ce n'est pas le seul sujet. Et on le démontre au travers des 30 propositions. Le budget, c'est important, l'investissement, c'est important, mais ce n'est pas l'essentiel pour arriver à aboutir à un fonctionnement cohérent du sauvetage en mer.
On l'a bien compris, le bénévole est très important dans ce maillage. C'est même le plus important, d'ailleurs.
Oui, c'est l'élément essentiel, parce que si l'État devait aujourd'hui, comme c'est le cas dans d'autres domaines, remplacer tous les bénévoles pour assurer une mission de sauvetage en mer avec les moyens de l'État, ça coûterait un peu plus de 100 millions d'euros, c'est notre estimation, 100 millions d'euros à l'État. Donc je ne résume pas uniquement la question financière, parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes, mais ça veut dire que la SNSM assure une mission en substitution, avec un principe de subsidiarité. Donc l'État n'a pas engagé ces moyens-là. Donc le bénévole assure, avec un financement des bateaux, souvent... par des fonds, des dons, des subventions, etc., assure un fonctionnement qui ne coûte quasiment rien à l'État. Dans le rapport, nous avons écrit d'ailleurs le meilleur rapport qualité-prix de l'ensemble des services de sauvetage en mer au niveau européen. Donc, et c'est avéré, voilà, aux États-Unis, par exemple, quand on élargit au-delà de l'Europe, il y a des gardes-côtes qui assurent ces missions de sauvetage. Ce n'est pas du tout bénévole. C'est la 4e armée américaine. Et Coast Guard, en Angleterre, c'est 180 millions d'euros, le budget en Grande-Bretagne, du sauvetage en mer. Donc avec 1 800 salariés. Donc on est très très loin de tout ça en France. Donc ça repose sur du bénévolat. C'est extraordinaire parce que c'est un engagement puissant. C'est le don de soi. Jusque d'ailleurs au sacrifice suprême, comme on l'a vu au sable, le 16 juin dernier. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fort. Donc il faut préserver ça, parce que c'est aussi... parce que les bénévoles le souhaitent en premier lieu. Si tous les bénévoles rencontrés, on a vu des centaines, vous allez dire, et nous, c'est bon, on ne veut plus entendre parler de ça, l'État n'a qu'à se débrouiller. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a entendu. C'est nous souhaitons continuer, nous souhaitons garder notre statut de bénévole, mais on ne veut plus, et passez-moi l'expression, être emmerdé par les collectes de fonds et par les tâches administratives. On veut faire remplir notre mission, c'est-à-dire sortir en mer, secourir des gens, point.
Être sauveteur, simplement.
Voilà.
Et pourquoi ne pas faire comme pour les pompiers, avoir des professionnels, par exemple, 2 ou 3 dans chaque station SNSM ? Ça, c'est pas jouable, c'est pas envisageable ?
C'est compliqué, enfin, sans doute. Ils ne le souhaitent pas, d'ailleurs. Personne ne le souhaite.
C'est bien de le préciser ?
Voilà. Et puis... quand il faut sortir en fonction des bateaux, hein, puisque la capacité des bateaux induit l'effectif à bord, quand il faut sortir à 7, si vous avez 2 ou 3 professionnels en permanence, très vite, je pense que ça pourra causer des difficultés. Mais dans certains cas, je pense aux marins-pompiers de Marseille, sont aussi des bénévoles, mais qui interviennent de façon étroite avec les militaires. Donc, qui entretiennent, qui préparent, et qui arment le bateau, et les bénévoles sortent, ça voilà. Donc on pourrait effectivement dans certains cas imaginer des choses cohérentes de ce type-là, de la même façon qu'on indique dans le rapport que c'est aussi le fruit de notre travail d'écoute et de rencontre, qu'en réalité, dans certains départements, les services départementaux d'incendie et de secours ont des moyens qui sont mis à disposition et qui quelquefois viennent s'additionner, pas forcément de façon équitable, et juste avec les moyens bénévoles. Donc, donc ça peut créer des tensions également avec des équipes surdotées ou très bien dotées, on va pas dire surdotées, on n'est jamais surdotées, mais très bien dotées des SDIS, et puis à côté de ça, des bénévoles qui tirent un peu la langue parce que il faut qu'ils se trouvent un local, qu'ils financent quelquefois, parce que la collectivité ou le port ne le prend pas en charge, il faut qu'ils se financent leur carburant, il faut qu'ils se financent leurs équipements, leur tenue, etc., etc. Donc ça finit par faire un peu lourd pour des bénévoles, quoi.
Didier Mandelli, merci beaucoup de toutes ces informations.
Je vous en prie.
On rappelle, vous êtes sénateur de la Vendée et rapporteur de cette mission sénatoriale. À très bientôt.
Bien ça, à bientôt, au revoir.